Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme tabac.
C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien en cette journée chaud. Il fait très très chaud aujourd'hui. On se retrouve quand même, c'est pas grave, même s'il fait chaud, on est là pour cette encore une nouvelle fois une autre émission de Delta Sport, l'avant-dernière de l'année malheureusement. Et oui, ça approche. Non, la dernière. Il en reste deux.
L'avant-avant-dernière.
Excusez-moi. Merci Mamadou de m'avoir corrigé. Mais on est toujours présent. On est le vendredi 22 mai aujourd'hui et je suis accompagné de toute l'équipe avec Mamadou du coup. Salut Mamadou.
C'est ça. Ça va très bien.
Tu vas bien?
Ça va très très bien.
Tu as dû parler après toi de la Saudi Pro League un peu en Arabie Saoudite.
Une première. Hein.
Exactement. Et puis du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses à dire.
L'émission que j'avais promise mardi dernier.
Exactement. Tu vas nous la faire aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Je suis aussi avec Ancelin. Salut Ancelin.
Salut.
Tu vas bien Ancelin?
Très bien.
Nickel Ancelin. Toi aujourd'hui tu vas nous parler du classique de Dunkerque, le Tour de Hongrie, la Flèche du Sud, le Circuit de Wallonie, la boucle de l'Aulne et grand départ du Tour de France 2028. Il y en a des choses à dire avec Emma Madou. Il y a aussi Clément. Salut Clément.
Salut.
Tu vas bien?
Ça va.
Nickel. Lui il va revenir sur le Giro d'Italie, il y a beaucoup de trucs à dire. C'est la 14e étape aujourd'hui, peut-être quelque chose comme ça. 13e, j'étais pas loin, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis je suis aussi avec Sacha. Salut Sacha.
Ça va.
Tu vas bien? Nickel, il va nous faire le quiz aujourd'hui. Et voilà. Et tout de suite, on commence avec Clément et le cyclisme.
Donc, je vais revenir sur les dernières étapes du Giro d'Italie. Donc c'est de la 4e à la 12e. Donc pour l'étape 4, après une attaque de Jan Christian à 2 km de l'arrivée, Jonathan Narvaez conclut au sprint, lui qui est de retour après sa grosse chute sur le Tour Dom Winter, et il remporte le maillot rose. Pour l'étape 5, l'Espagnol Igor Arrieta ouvre son compteur World Tour dans un final complètement fou. Il est tombé à 13 km, il est revenu sur Alfonso Eulalio, qui lui-même tombait à 6 km. Et l'Espagnol s'est ensuite trompé de route à 2 km de l'arrivée, mais il a quand même réussi à revenir sur l'Alio, qui était lui-même épuisé dans les derniers mètres.
Et comment c'est possible à ce niveau-là, où t'as un Giro, tu sais que c'était mal indiqué la route, enfin...
Je sais pas, mais c'est vrai que...
T'as tu trompes de route.
Trompé de route.
Voilà. C'est déjà arrivé une fois où il y avait plein de couleurs qui étaient passées sur le trottoir. Avec et c'était déjà arrivé.
Non mais ça arrive.
Et là,
Et surtout qu'en plus c'est Giro, enfin c'est pas non plus quelle course, c'est enfin quelle compétition et tu fais ça, putain. Encore heureusement, enfin ça va pas coûter la victoire.
Bah non.
Tant mieux. Sinon ça là c'est vraiment grave quand même. Oui.
Donc pour l'étape 6, après avoir évité une grosse chute dans le dernier kilomètre, l'Italien remporte la 6e étape du Giro devant Jasper Stuyven. Gêné par la chute, Paul Magny complète le podium. Malheureusement, il y a Jonathan Milan, Dylan Groenewegen et Tobias Lund Andersson qui sont tombés. Ah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes quand même ces dernières étapes dans le Giro au niveau des sprints.
C'est juste au niveau des sprints à la fin, c'est tout.
Donc pour l'étape 7, après l'attaque à 5 km de l'arrivée par Jonas Vingegaard, il remporte en solitaire cette 7e étape du Giro au sommet du Blockhaus. Donc c'est une montée de 13,6 km avec 8,4% de pente moyenne.
Ah oui, c'est pas mal. C'est beaucoup.
Ça monte beaucoup. Et c'est la première étape que Vingegaard remporte, sachant qu'elle a duré plus de 6 heures au total.
6 heures ?
Très longue.
Normalement, 6 heures, c'est un peu les courses trémies, les courses mythiques en un jour. Normalement, c'est 6 heures. Là, c'est une étape, c'est long.
C'est beaucoup.
Donc il y a Félix Kohl qui termine à 13 secondes du Danois. Alfonso Eulalio, lui, conserve son maillot rose. Mais il possède plus que 3 minutes 17 sur Vingegaard d'avance.
3 minutes 17 quand même, c'est quand même beaucoup. Bah après, peut-être qu'il va revenir Vingegaard, mais...
Moi, oui. Enfin,
on va voir.
J'espère.
On a un petit supporter de Vingegaard, là.
Donc ensuite, pour l'étape 8, à l'avant, en compagnie de son coéquipier Michael Bjerg, Jonathan Narvaez s'est isolé à 10 km de l'arrivée pour aller chercher cette 8e étape. Donc c'est son deuxième succès en cette semaine. Et Jonas Vingegaard et Jane Lay ont repris 2 secondes au maillot rose d'Alfonso. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça.
Là, c'est toujours ça.
Pour l'étape 9, Jonas Vingegaard a pris le dessus sur Félix Gaul et s'offre une deuxième victoire sur ce Giro. Mmh. L'Autrichien a attaqué à 3 km de l'arrivée, mais s'est fait contrer par un Danois.
Ah oui, sur attaquer Vingegaard, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais.
Et pour l'étape 10, comme attendu, l'Italien a écrasé le chrono sur le Giro. Donc là, c'était un contre-la-montre. Donc de son côté, Jonas Vingegaard n'a pas réussi à faire un super temps. Et il est classé à la 12e étape, 12e minute, non, 12e place, à 3 minutes de Ghana. Donc ça permet à Alfonso Lalio de conserver son maillot rose pour 27 secondes.
Oh, et ça, il est bien revenu. Ouais.
Donc pour l'étape 11, l'impressionnant équatorien Jonathan Narvaez a réussi à suivre toutes les attaques avant de se défaire d'Henrik Mauss au sprint pour s'offrir un troisième succès sur ce Giro. Derrière, les favoris ne se sont pas attaqués, ils sont restés quelques secondes du sprint devant. Et enfin, pour la 12e étape, c'est Alex Segert qui était présent dans un peloton encore bien fourni, malgré l'absence de quelques sprinteurs lâchés. Le Belge a attaqué à 3 km de l'arrivée et n'a jamais été revu. Il signe alors son premier succès sur un grand tour.
Super. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est la 13e étape, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est une étape un peu de montagne ou plus dans sprint un peu pour les baroudeurs?
Il y a un peu de montée, mais ouais, sinon, c'est une étape au milieu du tour.
Ouais, donc sinon, ça va finir, je pense. Tu penses sur le sprint aujourd'hui, tu penses?
Je sais pas.
Ok, bon, on verra bien. Bon, super. Bah, merci Clément. Tout de suite, on passe avec Ancelin et le cyclisme.
Moi, je vais commencer donc par la classique de Dunkerque, donc, qui se déroulait le 19 mai. Donc, c'était de Dunkerque jusqu'à Mont-Saint-Éloi, donc pour un total de 200 km. Donc, c'est l'allemand Artem Schmidt de la Netcompany Ineos qui a écrit son nom au palmarès avec une victoire solitaire seulement 2 ans après sa création. Donc, c'est sa première victoire professionnelle sur le sol français. Donc, il y avait également le Tour de Hongrie donc, qui se déroulait du 13 au 17 mai. Donc c'était avec 5 étapes, donc pour un total de 800 km. Donc la première étape, c'est Tim Merlier qui s'impose. Deuxième étape, c'est Benoît Cosnefroy. Troisième étape, une nouvelle fois, Tim Merlier. Quatrième étape, Jacob Soderqvist. Et enfin, la cinquième étape, Tim Merlier.
Ok, oh, Tim Merlier, j'imagine du coup qu'il a gagné le classement général
c'est
à
ça.
La fin.
Ouais. Donc la Flèche du Sud, donc, c'était également donc, du 13 au 17 mai 2026. Donc la première étape, c'est Mathieu Brennan. Deuxième étape, c'est également lui. Troisième étape, c'est Mathis van der Kerhove. Quatrième étape, c'est Hansen Marcus Sander. Et enfin, la cinquième étape, Mathieu Brennan. Et le classement général, donc, il revient à Van Kermove Mathis de la Visma Lise Bike.
En plus, ça, c'est des dates calées vers le Giro, donc il n'y a pas trop de favoris
oui,
qu'on connaît.
Il n'y a pas de grands coureurs.
Oui, c'est ça.
Après, il y en a d'autres aussi, ils sont en prépa Tour de
France. Oui, en plus, oui, c'est sûr.
Ouais. Donc, il y avait également donc, le circuit de Wallonie donc, qui se débutait le jeudi 14 mai donc, en Belgique. Donc, cette 59e édition de l'épreuve Wallonne promet une course nerveuse qui a été ouverte sur un parcours de 197 km donc, entre la Louvrière et Charleroi. Donc, la victoire donc, revient à Riley Shenan de la NCN Development Team. Donc, le 20 mai, il y avait également la boucle d'Olonne. Donc, cette 86e édition proposait un parcours wallonné de 177 km donc autour de Châteaulin, donc à travers les routes du Finistère. Donc c'est la 9e manche de la FDJ United Series. Et la victoire revient à John Barentexta. Voilà. Et donc ASO a officiellement dévoilé donc, le grand départ du Tour de France 2028, donc, qui se fera depuis Reims.
D'accord.
Donc Reims accueillera le peloton le samedi 24 juin 2028 donc, pour lancer la 115e édition de la Grande Boucle. Donc un retour en France après 2 départs à l'étranger.
Ce que j'allais dire, parce que normalement de base c'est 2-3 étapes à l'étranger
ouais.
Et là...
Donc l'Espagne cette année et le Royaume-Uni l'année prochaine.
D'accord.
Okay. Donc pendant 4 jours, donc, le Tour traversa la région Grand Est et le Tour s'élancera dès la fin juin, une semaine plus tôt que d'habitude, donc pour éviter le chevauchement avec les Jeux Olympiques d'été. Pour permettre aux meilleurs coureurs de participer aux deux rendez-vous.
C'est vrai que 2028, putain, ouais. C'est vrai qu'on se projette là, c'est encore dans.
Ouais, c'est dans 2 ans, ouais.
Et
ouais.
Est-ce qu'elle passe pas loin de fin de la Vienne ou. Non
pas pour 2028
Ouais, pour bah,
on n'a pas encore le parcours.
Ouais, le parcours. Ah, ouais,
on a que le départ, je crois.
Ok. Ouais. Super, bon, ça marche. C'est vrai que là, de se projeter en 2028, c'est vrai que quand t'as dit les JO, je fais attends 2028. Ah oui, c'est vrai.
Oui,
que,
moi aussi.
Ça passe vite, hein.
Ouais, ouais. Ça passe vite, c'est ça. Mais après, c'est encore dans 2 ans. Bon, on a
déjà 2 ans qu'il y a eu les JO à Paris.
Mais après, c'est déjà la Coupe du Monde, cet été. Ouais. On y reviendra. C'est bon pour toi, Insta ouais, c'est bon, parfait. Ben, tout de suite, on passe à la Ligue 1. Et Et oui, malheureusement, c'est la dernière chronique Ligue 1 de l'année, puisque la Ligue 1, ça y est, c'est terminé, fini. Alors, j'en parlerai quand même un peu la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même les barrages, comme vous savez, le 3ème de Ligue 2 qui va affronter le 16ème de Ligue 1, pour savoir quand même qui va monter, qui va descendre. Mais il y avait quand même du coup une dernière journée, c'était dimanche soir, et donc il y a eu, notamment eu un super match entre Strasbourg et Monaco. Mamadou, tu regardes pas, tu penses à eu combien? Allez, vas-y.
Strasbourg-Monaco, je n'ai pas vu de match, mais je pense que Monaco a gagné quand même.
Ok, devine le score, je vous dis un petit indice, c'est un score assez élevé.
Vas-y. Monaco 4-0.
Monaco 4-0, ok, en cela tu penses quoi? Enfin, un petit pari.
2-5.
5-2 pour Monaco?
Ouais.
Ok, Clément?
Moi, je sais pas du tout.
C'est
pas...
Allez, vas-y, donne un petit truc, ça, c'est pari.
Peut-être 4-1, allez.
4-1, ok.
Je dis 5-3.
Ok, bah, Sacha, t'es le plus proche. 5-4 pour Strasbourg.
J'hésitais.
Ah ouais. Et attends, parce qu'il y avait 4-1 pour Monaco. Et Strasbourg a mis 4 buts et a gagné 5-4. Donc c'est assez fou quand même. Donc voilà, vraiment 9 buts dans un match. C'est pas tout le temps quand même que ça arrive. La dernière fois, je me souviens, enfin, tu sais, Lyon-Marseille. Le fameux Ligue des Champions, mais c'est aussi le fameux Lyon-Marseille à l'époque. Où il y avait 5. Enfin, non. Ici, Lyon-Marseille. Non, c'était un 5-5. Non, Lyon, Marseille-Montpellier. Ouais, c'était à l'époque, tu sais,
ouais,
Montpellier.
Il y a très longtemps,
Montpellier avait gagné, 4, ouais. gagné 4-0 à la mi-temps et Marseille avait gagné 5-4 en deuxième mi-temps. Enfin, un match fou. Donc voilà, 5-4. Là aussi, beaucoup de buts. Victoire de Lens, 4-0 contre Lyon. Alors là, Lyon, en plus, qui pouvait, en cas de victoire, pouvait passer devant Lille pour jouer avec des champions. Et finalement, ils prennent 4-0 chez eux. Avec notamment, je ne sais pas si tu as eu Mamadou, le chambrage de Thauvin. Devant les supporters lyonnais, bon, parce qu'il gagnait 3-0 et du coup en tant qu'ancien Marseillais il chambrait un peu les supporters lensois, donc c'est un peu de c'est un peu de bonne guerre. Marseille, victoire très importante de Marseille qui gagne 3-1 contre Rennes, au moins on finit sur une bonne note. Et du coup Marseille, on verra après, mais il va se diriger en Ligue Europa. Ensuite, la triste match entre Nice et Metz, 0-0. On va voir les conséquences de ce match, mais ça a dégénéré même à Nice, puisqu'il y a eu envahissement de terrain à la fin. On verra pourquoi. Le Havre, du coup, a gagné 2-0 contre Lorient. Là, le Paris FC a gagné 2-1 contre le Paris Saint-Germain, le petit derby quand même de Paris. Et le PFC l'a emporté. Lille-Auxerre, victoire de Auxerre, surprise là aussi, 2-0. On va voir pourquoi. Et Brest-Angers, match nul un peu partout. À noter que Nantes-Toulouse, le match a été arrêté au bout de la 21e minute, parce qu'il y a eu envahissement de terrain là aussi. Ouais, je vais expliquer pourquoi, justement, parce que je vais vous aider avec le classement. Donc, c'est fini, le PSG a remporté le championnat de France, même si cette année, ça a été serré avec Lens quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, tout au long de l'année, quand même, ouais. C'était assez serré. Ouais. Donc, Paris qui a fini premier avec 76 points. Je vois le petit sourire de Sacha, il est content. Deuxième, Lens avec 70 points. Troisième, Lille avec 61 points. Donc, ces trois-là vont aller directement en Ligue des Champions, donc la plus grande des compétitions. Quatrième, Lyon qui finit seulement un point derrière Lille. Comme c'est pour ça que j'avais dit, hein, Lille a perdu contre Auxerre. Alors qu'Auxerre a été 16e quand même, donc voilà. Alors que du coup, en plus, comme Lille perdait, si Lyon avait gagné contre Lens, il aurait pu passer devant, mais du coup, non. Et du coup, Lyon finit 4e et va devoir disputer les barrages pour aller en Ligue des Champions. Il me semble que c'est 4 matchs, 2 matchs aller-retour. Enfin, 2 confrontations contre 2 équipes. Et j'ai fait match aller-retour.
C'est ça.
Et après, parce qu'ils sont en Ligue des Champions. Et imagine s'ils perdent, et ben ils seront en Ligue Europa, donc la compétition juste en dessous. Justement, Ligue Europa, c'est Marseille qui va aussi directement. 5e qui finit donc avec 59 points. Égalité de points avec Rennes, mais avec une meilleure différence de but. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, Marseille, du coup là, ils ont combien de différence de but? Ils ont 18 de différence de but. Parce qu'ils ont marqué 63 buts, ils ont pris 45. Donc tu fais la soustraction, voilà, 18 plus 18. Rennes, du coup, 6e qui vont aller, eux, en Conférence League. Donc c'est encore la compétition juste en dessous. Et donc voilà. Et pour le bas de classement, comme je l'ai dit, Metz, bon bah, comme on savait déjà, été dernier. Nantes, c'est pour ça qu'ils ont fait une envahissement de terrain entre guillemets, supporters, même si évidemment, c'est pas la bonne solution, c'est n'importe quoi. Puisqu'ils vont descendre en Ligue 2, donc voilà. Et comme j'ai dit, Nice, quand même, un gros club qui va jouer ce soir la finale de Coupe de France contre Lens, donc voilà. Et ben, qui est 16e, et du coup, qui est barragiste. Donc, ils vont devoir jouer contre le 3e de Ligue 2. Donc, une confrontation aller-retour. Donc, d'abord, ça se jouera à Saint-Etienne. Donc, qui a fini 3ème Saint-Etienne. Et après, ça jouera à Nice. D'ailleurs, Nice, au retour, ça jouera à huis clos, c'est-à-dire avec aucun supporter. Puisque, comme j'ai dit, il y a eu un envahissement de terrain à la fin du match entre Nice et Metz, 0-0. Assez triste, mais donc voilà. Donc, du coup, Auxerre s'est sauvé et reste en Ligue 1. Pareil pour Le Havre. Et vous, comme j'ai dit, il va y avoir un petit Nice-Saint-Etienne pour savoir qui va monter en Ligue 1 et qui va du coup descendre en Ligue 2. On verra bien. Donc, soit si Nice gagne, donc il reste en Ligue 1 et Saint-Etienne en Ligue 2. Soit Saint-Etienne gagne, du coup, Saint-Etienne passe en Ligue 1 et Nice passe en Ligue 2. Et à noter juste la Ligue 2, je ne sais pas si je l'avais dit, mais du coup, 3 montent en Ligue 1 pour l'année prochaine. Et Le Mans aussi, Le Mans, anecdote de fou, Le Mans, il y a 2 ans, ils étaient en National. Donc, c'est encore en dessous de la Ligue 2. Ils ont réussi l'année dernière à monter en Ligue 2. Et là, en Ligue 2, bah, quand tu montes en Ligue 2, le but, c'est de se maintenir pour pas descendre en National. Ils finissent deuxième, ils montent en Ligue 1 directement. Donc, c'est assez fou. Donc là, par contre, l'année prochaine, ça va être dur, Le Mans en Ligue 1. Mais c'est assez fou quand même. Donc voilà. Bon, c'est fini pour la Ligue 1. On verra juste la Coupe de France la prochaine fois, le résultat et les barrages, comme j'ai dit. Et tout de suite, on passe avec Mamadou pour la Saudi Pro League.
Nouveau jingle.
C'est le générique officiel, ça, de la Saudi Pro League. Putain, je sais même pas.
Depuis 3 ans, c'est le nouveau générique. Hein.
Ok.
Donc, on va parler de la Saudi Pro League, donc le championnat de football saoudien, le premier championnat. Donc, celui qui est en plein essor depuis l'arrivée de Ronaldo en 2022, forcément. Ouais. Ils font que d'investir à fond. Ils investissent des millions, des milliards dans des joueurs souvent vieux en fin de carrière.
Même si ça s'est un peu calmé quand même.
Ouais.
Hein, le plus de joueurs, c'était vers 2022, je pense.
Ouais, 2022-23.
Ouais.
Benzema, CR7, Mané, mais c'est un peu calmé. Et donc, c'était la dernière journée, comme en Ligue 1. Et donc, c'était extrêmement serré parce qu'en fait, il y avait Al Nassr qui était premier et puis tu avais Al Hilal qui était deuxième. Donc, les deux gros clubs un peu en concurrence. Et donc, Al Nassr devait absolument gagner son dernier match face à Damac. C'est un autre club saoudien. Et ils ont gagné 4-1, victoire à domicile avec un doublé de CR7. Donc CR7, un ancien grand joueur.
Cristiano
Ronaldo. Il est toujours, mais ouais. Il est sur le déclin, forcément.
Bah, c'est sûr.
Donc il met un coup franc et puis il met un autre but. Et donc c'est le premier trophée de Al Nassr depuis 7 ans, premier championnat.
Parce que c'était Al Hilal qui avait gagné la saison dernière. C'est ça.
Les deux dernières saisons, c'était Al Hilal qui la prenait juste devant Al Nassr.
Ouais.
Et là, du coup, ils la reprennent après 7 ans. Putain. Voilà, donc c'est tout pour la Saudi Pro League. Et donc...
Tout de suite, vas-y, on passe du coup là au fameux Real Madrid. Tu as les frissons
et
ou pas
donc,
un peu votre frisson là
non. Et oui, mais oui.
T'as les frissons.
Et du coup, c'est parti pour la petite chronique que j'avais promise sur le Real sur ces deux dernières saisons qui sont absolument catastrophiques. Hein. Donc, c'est parti pour cette chronique. Hein. Deux saisons sans trophée majeur pour le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas?
Pas du tout, pour moi c'est Marseille. Non, je rigole. C'est rien.
Ouais, ok. D'accord. Et donc, pour n'importe quelle autre équipe, ce serait un problème forcément, deux saisons sans gagner. Mais pour le Real, c'est encore plus grave parce que ce n'est que la sixième saison blanche en 126 ans. Donc voilà, c'est vraiment anormal, c'est vraiment une anomalie.
Après Marseille, on fait des saisons blanches depuis 15 ans, on se plaint pas quand même. Hein,
ouais, pour vous, c'est la routine.
C'est l'habitude, voilà.
Je veux dire, comment on le vit ça?
À Marseille, t'as l'habitude, hein, mais t'espères juste, chaque année, tu sais, chaque début d'année, Marseille, là on recrute des joueurs, on fait, oh les gars, là c'est l'année Marseille, la Ligue 1, Coupe de France cette année, les gars, c'est la bonne. Et après, chaque année, c'est pareil, oh, on a été nuls, mais on verra l'année prochaine. C'est à Marseille, c'est soit tu t'enflammes, et après tu perds un match, hop, ça y est, c'est Marseille, voilà.
Le sang chaud, quoi.
Mais j'ai jamais vu Marseille soulever un trophée de ma vie, tu te rends compte ça depuis que je suis né?
Tu vois, Marseille. Bah, tu peux jouer à FIFA, tu peux jouer à FIFA. Carrière.
Ouais, allez. Puis... Ça raconte ton truc de Real.
Donc c'est parti, 5 actes, voilà 5 parties. Donc l'acte 1, donc forcément la saison 2024-2025, hein, le déclin. Donc tout commence en 2024-2025. Donc le Real qui venait de gagner la Ligue des Champions, c'est un 15e, et la Liga. Donc c'était vraiment une grosse saison parce qu'ils ont perdu que 2 matchs sur toute la saison. 2 matchs contre l'Atlético de Madrid, un vaincu en Ligue des Champions. Ils ont écrasé le FC Barcelone, vraiment, c'était une saison vraiment exceptionnelle. Donc le club semblait vraiment invincible. Et puis, il y a l'annonce que vous êtes peut-être tous vus, je pense, Kylian Mbappé qui signe au Real Madrid en fin de contrat. Donc là, vraiment, tout le monde se dit, bon, bah c'est bon, on prend la Ligue des Champions, on prend la Liga. En plus, on a Mbappé qui arrive, on va tout écraser, on va tout gagner pendant au moins 5 ans. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Toni Kroos était un milieu de terrain du Real vraiment hyper important, qui vraiment équilibrait tout, faisait les passes, vraiment un milieu de terrain qui était le métronome de l'équipe. Il annonce sa retraite à seulement 34 ans après avoir tout gagné. Donc lui, il a pris la Coupe du Monde, il a pris 6 Ligues des Champions, il a pris plein de Ligas, donc il a vraiment fini le jeu en vrai. Il lui manquait qu'un seul truc, c'était l'Euro, mais finalement, c'est pas si grave.
Avec l'Allemagne, après il a gagné la Coupe du Monde et tout.
Ouais, donc c'est pas si grave. Et donc Mbappé qui arrive... Ses premiers matchs, ils sont pas fous.
Non.
Sa première début de saison de septembre à décembre, c'est pas fou. Il met quelques buts, mais on sent que le Real est beaucoup moins bon.
Tu te rappelles, je me souviens, on avait pas une année dernière, on avait fait un petit débat en décembre, je pense, l'année dernière, on avait dit, ouais, Non, est-ce que vous pensez que Mbappé va revenir et vous, vous êtes tous en train de dire non.
Ah, moi je disais oui, moi.
Enfin, ok. Et moi j'avais dit, vous verrez, attendez, il arrive.
Ouais, t'avais Yannis qui disait non, qui croyait
voilà,
pas
Yannis
du tout.
Yannis
disait
non.
Parce qu'il était pour
non,
le PSG, il voulait se venger.
Voilà, et moi je disais, attendez, Mbappé il va être bon. Et voilà.
Et finalement, sur la deuxième partie de saison, il était un peu meilleur. Il finit même sous leader, donc meilleur buteur de la Ligue 1. Après, pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup de concurrence.
Ouais, non,
c'est... Il y avait Lewandowski, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et donc, le Real qui n'y arrive plus, en Ligue des Champions, ils partent en quart de finale face à Arsenal. Après, avoir perdu 3-0 match aller, match retour, on pensait tous qu'ils allaient faire une remontada. Et puis, non, pas du tout, ils ont juste perdu. En Ligue 1, pareil, ça se joue sur le Classico. Je ne sais pas si vous vous rappelez pas du coup, mais c'était l'année dernière. Ça s'est joué en mai, le dernier match, en fin de la genre 33e journée.
Je ne me souviens plus du tout.
Barça-Real, 4-3 au Camp Nou. Mbappé qui met un triplé. Après,
ah si, je m'en souviens. C'était un après-midi, je crois, il me semble.
Ouais, c'était l'après-midi. Il y avait une grosse polémique arbitrale. Parce que pour le coup, je l'admets, l'arbitre s'est vraiment trompé. Il y avait clairement carton rouge pour Tchouaméni. Parce qu'il avait fait une main de fou. Mais bon, bref. Et donc le Real perd la Liga, il perd la Ligue des Champions. Et en Coupe du Roi, pareil. C'était classique en finale. Et pour le coup, le Real avait bien joué. Mbappé qui mettait son premier coup franc de toute sa carrière. Donc il y avait 2-1 à la 77e. Le Real était vraiment à ça de gagner. On s'est dit, bon bah enfin, on était en janvier. Enfin non, on était en avril. Enfin, le Real peut gagner. Mais il y avait deux erreurs d'affilée qui font perdre le match. Et donc le Real perd aussi ça. Et donc forcément, arrivé la fin de saison, Ancelotti part. Parce que c'est bon, c'est la fin d'un cycle. Et donc le lendemain, ils annoncent l'arrivée de Xabi Alonso. Donc c'est une ancienne légende du Real. Pareil, il avait tout gagné, champion du monde en 2010. Et puis l'an dernier, il avait fait invaincu en Bundesliga. Mmh. Il prend la Bundesliga devant le Bayern, un très très gros club.
Avec Leverkusen, ouais.
Ouais, donc Leverkusen qui était un club qui n'avait plus gagné depuis vraiment hyper longtemps. Mmh. Et donc Xabi Alonso arrive. Donc tout le monde pense que ça va bien se passer. Et en plus, en été, le Real signe quelques joueurs comme Dean Huijsen, Carreras, etc. Et donc, tout le monde pense que ça se passe bien. Et là arrive la Coupe du Monde des clubs. Tout commence bien, avec notamment Gonzalo Garcia qui met beaucoup de buts. Ça joue vraiment bien. Et arrive à la demi-finale face au PSG. Là, c'était le premier examen, on va dire, premier gros défi. Et le Real perd 4-0.
Le PSG qui avait gagné la Ligue des Champions auparavant.
Le PSG qui était à son prime, franchement. Et donc, défaite 4-0. Voilà. Et donc début de saison, acte 3, ça reprend. Pareil, début de saison, ça se passe vraiment bien pour le coup. Le Real gagne la plupart de ses matchs. En septembre, je crois qu'ils font 5-5. Puis après le Classico, ils le gagnent 2-1. But de Mbappé, Bellingham. Et donc tout se passe bien. Mais vers la fin du match, Xabi Alonso, il sort Vinicius Junior. Et vraiment, il est pas content du tout. Il fait que de râler dans le stade, quoi. Vraiment, il râle, il boude. Et il va direct au vestiaire. Il aurait même insulté le coach et menacé de quitter le club. Oh et donc, pour les supporters, même pour la présidence, c'est vraiment la goutte de trop. Hmm. Parce que tout se passait bien. Et puis lui qui en rajoute une couche et qui met des tensions. Donc, vraiment, ça complique les choses. Surtout que Vinicius Junior, il ne reste qu'un an de contrat, 2027. Donc, soit il part cette saison, soit il prolonge. Parce que pour le Real, c'est impossible qu'il parte gratuitement comme ça. Un joueur qui vaut aussi cher, impossible qu'il parte.
Je savais même pas que. C'est vrai que Vinicius, faut en parler, mais depuis qu'il devait remporter son ballon d'or, c'était l'année dernière,
depuis
je crois. Depuis
2024,
et il l'a pas remporté, je trouve, depuis ce moment-là. Il est pas nul, tu vois, mais il est différent. Avant, il était vraiment bon, et là, je trouve.
Il marque plus beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Et pourtant, il avait promis faire 10 fois plus, mais là, je crois qu'il a fait 10 fois moins. Mais donc voilà. Et actuellement, il gagne 20 millions d'euros par an et il demande 10 millions de plus. Donc, il veut passer à 30 millions. Alors que depuis 2 ans, il est mauvais.
En vrai, ça va.
Et donc, le Real refuse, forcément.
Ah oui.
30 millions par an.
Ça fait cher.
Ouais, ça fait cher. Hein. Donc, en janvier, qu'est-ce qui se passe en janvier? La Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid qui se qualifie en finale et qui bat l'Atlético de Madrid 2-1. Et donc, c'est la finale contre le Barça. Au début, tout va bien, de partout. Le Real joue bien, ça va. Sauf que dernière minute, à la 90e, le Barça qui met le but du 3-2. Donc c'est bon, c'est la désillusion. Encore un classico qui est perdu, encore un trophée qui s'en va. Et donc le lendemain, on apprend le départ de Xabi Alonso qui se fait virer. Alors qu'en fait, il n'a pas été si mauvais en vrai. En 34 matchs, il fait 24 victoires,
ça va,
6 défaites. Et puis le jeu n'était pas si mauvais, il y avait de l'espoir. C'est un peu comme Luis Enrique, j'en parlais en janvier. Luis Enrique, il était pareil. ces premiers mois, ils n'étaient pas fous du tout. Ils perdaient beaucoup de matchs, mais pourtant, ils finissent par gagner.
Ouais, c'était pas une, c'était pas. Bah, après, en plus, il arrive dans un contexte pas de crise, mais enfin, dans un contexte où il fallait gérer quand même Mbappé, ouais, Neymar. Voilà, ouais. C'est vrai qu'il Neymar, Vinicius, il passe de Leverkusen à quand même le Real. C'est.
Voilà, ouais, voilà, forcément, c'est plus dur.
Mais en vrai, non, ça va.
Et donc, le lendemain encore, ils annoncent l'arrivée d'un nouveau coach. Donc, c'est Alvaro Arbeloa. C'était aussi un champion du monde en 2010. C'est un ancien du Real. Il a depuis genre 20 ans, je crois. Et puis, du coup, il était entraîneur de l'équipe B. Et donc, voilà, il commence. Et les débuts sont pas fous. Il gagne quelques matchs, mais il fait moins bien que Xabi Alonso.
Oui, je suis d'accord.
Il y a beaucoup de défaites importantes, notamment en Coupe du Roi. Il perd contre une Détroit, donc c'était Albacete. Il perd en Ligue des Champions face à Benfica, mais après, il s'en ressort bien face à City. Il perd contre Osasuna, contre Etafé. Donc là, il perd vraiment beaucoup de points. Et donc ça, c'est compliqué. Et on finit forcément en avril face au Bayern. Défaite 4-3 au match retour. Malgré un bon match.
Pourtant, ce que j'allais dire. Pourtant, ouais. En vrai, ils avaient bien joué. Malgré un bon match. Après, c'est que le Bayern, c'était très très fort.
Ouais.
Mais...
Et donc, ils perdent. Pareil, en Liga, ils perdent la Liga. Officiellement sur le Classico, pareil. 2-0, le match était mauvais. Donc, bilan de la saison, deuxième place en Liga. Coupe du Roi, ils finissent au 8e. Super Coupe d'Espagne, finaliste. Et en Ligue des Champions, ils partent dès les quarts de finale. Donc, voilà, une nouvelle saison blanche pour une équipe qui était au sommet de l'Europe il y a 2 ans. Ouais. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve.
Ça fait 2 ans, saison blanche. Ils ont quand même gagné un petit trophée l'année dernière.
Première saison, ils avaient fait un petit trophée, donc c'était pas une saison blanche. Oui. Et là, cette saison blanche.
Vraiment, 4 trophées, ouais. C'est sûr. Voilà. Parce qu'ils avaient gagné, par exemple, le trophée de la Super Coupe, peut-être, j'imagine.
Ils avaient la Super Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Et le truc intercontinental.
Ah oui, du coup, oui, contre. Ouais, mais après, c'est, ouais. Bah, après, c'est beau, mais enfin, c'est des XE sur un match.
Voilà. Voilà.
Bon, mais en tout cas, merci, Mamadou, pardon. Ça fait plaisir de revoir un peu. Enfin, ça nous a mis un peu dans le contexte.
Pour mieux comprendre.
Vous avez tous compris, pour mieux comprendre. C'est sûr que c'est un grand club et de le voir pas mourir, quand même. Non, pas mourir, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est la 6e saison dans l'histoire du Real où il n'y a pas de trophée sur 126 ans. C'est quand même impressionnant. Et bien, du coup, merci, Mamadou. Tout de suite, du coup, on passe avec Sacha et le quiz.
Le quiz.
Allez, vas-y, mon petit Sacha, ça fait plaisir, un petit
okay,
quiz.
Ok, c'est parti. Donc, la première question, on va parler de Formule 1.
Allez.
En Formule 1, okay. Quel pneu se détériore le plus vite?
Ok,
moi je vous fais toutes les trois propositions et vous me répondez, ok?
Ok,
ok.
Les hard, les medium ou les soft?
Je vais prendre un dernier mot.
Ok.
Je sais.
Vas-y, Clément.
Peut-être les médiums.
Les médiums.
Ouais, la même chose.
Les hard.
Les hard et...
J'aurais dit les soft.
Bien joué, Clément.
C'est les soft.
C'est les soft.
J'espérais juste que personne dise les soft. Comme ça, je suis seul à prendre le point. Magnifique. Allez, hop.
Donc, un point pour Clément. Deuxième question. Au Tour de France 2026, combien y a-t-il d'épreuves de contre-la-montre?
Je pense juste...
Une, deux ou trois?
Trois.
Deux.
Moi j'aurais dit deux aussi.
Ah donc c'est deux.
En fait de base il n'y en a qu'une, non? Mais là il y en a peut-être deux. Moi si... En fait je suis enceint avec Clément, hein. Moi je... si ils disent deux, je vais dire deux aussi.
Effectivement, c'est deux.
Oh non,
il y en a une par équipe et une en individuel.
Ouais, ça, c'est... Maintenant par équipe ça se faisait plus sur le Tour de France, il me semble, non?
Ouais, ouais, je crois que c'est ça sera la première fois.
Ouais, c'est vrai.
J'avais jamais vu, je crois.
Ouais. C'est pas les trois premiers qui. Quelque comme ça? C'est que les trois premiers où le temps il compte.
Ils avaient fait ça sur. Je sais plus où c'était.
Mais ça serait comme ça, putain, c'est bizarre.
Mais je sais pas comment ça va se passer le départ, ça va être la meilleure équipe qui part en dernière, du coup. Mmh.
C'est souvent ça, on commence par ça en plus, je crois.
Ouais,
oui,
la pire équipe commence, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, parfait.
Ensuite, on va sortir un peu du vélo et de la Formule 1. Là, on part sur un sport, le hockey. Combien coûte un équipement de gardien de hockey?
Ok.
C'est professionnel, là.
Ok, faut que j'ai une estimation le plus proche, gagne.
Je vous donne des propositions, vous voulez faire...
On peut faire une estimation comme ça.
Allez,
quand même. Ouais, estimation.
Ok, estimation.
Alors, gardien de hockey, donc il a tout le matos, on prend tout du coup.
Même le genre, le casque, même son...
Oui. Tout ce que vous, la seule chose que vous comptez pas, c'est le palais et le but.
Ok, et son... Et ça... Comment ça s'appelle?
La crosse.
La crosse, ça compte aussi?
Je dis 3 000 $.
Ok.
Moi, je vais dire 5 800. 5 800.
Ouais, 3 500.
3 500.
4 300.
4 300.
5 800.
C'est Mamadou qui gagne, c'est 3 000. Okay. 3000 euros environ.
Et t'as dit quoi? T'as dit 3000 dollars?
Ouais.
T'es bon, t'es bon.
Ok.
Entre à peu près 3000 et 5000. Donc voilà.
Ouais. J'ai abusé, moi, 5800 quand même. C'est un peu bon.
Ensuite, on change. Bon là, ça avantage un peu Clément. Je suis désolée. On va voir si tu vas quand même réussir.
Ok.
Je suis à Marseille.
Est-ce que vous connaissez quel chanteur connu a failli jouer à l'Olympique de Marseille?
Oh, je connais même pas.
Tu l'as pas?
Quel chanteur connu?
J'allais dire Jules, mais non.
Mais...
je l'ai pas.
En proposition, il y a Jules, effectivement. Hein. Soprano ou SCH.
Ah, je l'ai, j'ai la tête. La...
Moi je sais, je crois.
Je sais qui c'est, je réponds au dernier.
Moi je réponds au dernier aussi.
J'ai là aussi.
Je sais pas trop. Peut-être SCH.
Je vais dire Soprano.
Okay. Soprano, tu dis quoi?
Je crois que c'est SCH.
Moi je crois que c'est Jules, parce que Jules, il est... je sais qu'à l'époque il était ramasseur de balles au vélodrome. Moi je vais dire Jules.
Mais effectivement, c'est Jules.
Ouais, voilà.
Ah ouais,
il a joué, il a failli signer. Il a failli, je crois qu'il a fait juste un match de test à l'OM.
Ah, la dinguerie.
C'est une dinguerie. Mais c'est ça, c'est... parce qu'en fait, c'était,
j'ai vu c'était en 2017, si je me trompe pas.
Ouais, bah, en fait, c'est qu'il était ramasseur de balles, du coup, mais ça veut dire qu'il était quand même dans le centre de formation de Marseille. Mm. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'a aidé. Mais ouais, Jules, putain. C'est une dinguerie quand même de se dire maintenant, c'est reconnu pour le rap. Ouais. Et là, il a fallu quand même jouer au foot.
Ah, on dirait pas.
Ok, ouais. Prochaine question.
J'ai 3 points et je crois que vous avez tous 1 point, je crois. C'est ça,
je crois. Quel est le sport national en Indonésie? La boxe, le badminton ou le rugby?
Je pense que je sais.
Clément, une idée?
Peut-être le badminton.
Ok, en cela.
Indonésie.
On dirait la boxe.
Box, badminton, box.
Je crois que j'aurais dit badminton aussi, il me semble.
Badminton,
je crois qu'ils sont bons.
Je veux dire box.
Eh bien, c'est badminton.
Ouais. Au JO, je crois que j'avais déjà vu des Indonésiens, ils sont bons au badminton.
Ouais. C'est vrai.
Là, les deux Clément ont gagné.
Donc on est à 3.
4 pour moi.
4, pardon, excuse-moi. 4, 1, 1, 2.
Ouais, c'est ça. 4.
Ok. Prochaine question. On part sur le basket là.
Ouh là là.
Quel joueur a marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA? Donc c'est la compétition qui se passe aux États-Unis. Une des meilleures équipes. En proposition, on a Kobe Bryant, LeBron James ou Michael Jordan.
En fait, je sais pas. Ah, j'ai un doute.
Moi, je crois que je vais dire Kobe Bryant. Je suis nul au basket, vraiment, je suis nul.
C'est les trois joueurs les plus connus, ouais, les plus forts.
Je veux dire Kobe Bryant, moi.
Kobe Bryant.
LeBron James.
LeBron James. Ancelin.
Le C, je suis...
Le C, c'est Michael Jordan.
Oh, moi, j'aurais dit ça aussi.
Ah, c'est Michael, en fait. Ouais, je dis quand même LeBron James.
Okay. LeBron James, Kobe Bryant, ouais. Michael et Michael.
Ouais.
Eh bien, effectivement, c'est LeBron James.
Ok. T'as choisi la simplicité, t'es pas drôle. Voilà, t'es pas drôle.
Bien joué. On est à 4 pour Clément.
2 pour Mamadou.
2 pour Mamadou, 1 pour Ancelin et 2 pour Clément.
C'est pas grave, en soi.
Alors là, ça change, il va falloir deviner le sport.
Ouh là là, ok, vas-y.
Dans quel sport parle-t-on de bunker?
De bunker.
Bunker.
Dans le golf, dans le bowling ou dans l'équitation?
Je sais, moi. Je dis en dernier, sinon c'est...
Ok, vas-y.
De bunker.
Je crois que je sais.
Je crois que c'est de bowling, mais ce serait bizarre.
Ok.
Ouais, peut-être l'équitation.
L'équitation? Ancelin.
Le golf.
Allez, le golf.
Le golf.
Ah, je sais pas, je veux dire bowling.
Bowling.
Je crois que c'est le golf, non?
C'est effectivement le golf.
Ouais, voilà.
C'est les trous de sable. Le sable.
Ah, ok.
Il y a, et quand t'es dedans, t'es dans le bunker.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais.
On change de sport, comme toujours. On passe vers Roland Garros. Combien de fois Rafael Nadal a-t-il remporté Roland Garros? 14 fois, 17 fois ou 7 fois?
Ou 7?
Ou 7.
Ah, c'était pas
14, 12. 14, 17 ou 7?
C'est ça.
Roland Garros.
Ah, je pense que je sais. Bon.
Moi, j'aurais dit 7 fois.
Moi aussi.
7 fois?
14, ce serait énorme.
Moi, je...
Après, c'est Nadal quand même.
Moi, j'aurais dit 14. Allez, je prends un risque. Parce que 17, c'est vraiment trop. 17.
Parce que tu sais, le journaliste qui dit en 2001, 7, en 2002.
Ouais, 2003. Mais c'est ça. Quand le speaker fait ça, je te jure, c'est pas 7. C'est-à-dire, viens, on prend 14 tous les deux. Moi, je suis sûr, c'est 14.
C'est ton plan pour que...
Bah d'accord, je gagne.
14, 14.
14,
14, 14, vous avez dit 7 tous les deux.
Ouais.
eh bien, vous gagnez, c'est 14.
Voilà, maman,
14
tu dis quoi, voilà.
C'est énorme, hein, 14.
Alors, 14
c'est énorme.
Mais ça, là où le speaker, tout le temps, il dit, ouais, 2002,
ouais.
Il y a bien 14 fois.
C'est impressionnant.
Ok.
Ouais, c'est énorme.
On arrive sur les dernières questions. Quelle équipe a remporté les championnats du monde de handball en 2025?
Oh, attends, championnat je m'en rappelle. En plus,
c'est la France, non?
C'était mon sport, non.
Pas de proposition pour celle-là.
Attends, championnat d'Europe? Du monde?
Non, championnat du monde.
Ok, attends.
Je masculin,
handball.
Masculin?
Masculin, pardon, oui. Masculin en 2025.
Vas-y, moi, je pense que je sais.
C'est France ou Danemark, je crois. Et je veux dire France.
Okay. France? Je dis en dernier, Clément, ouais. Ancelin.
Je dirais Danemark.
Danemark?
Je crois que c'était serré, mais je sais plus ouais, pareil, qui a gagné à la fin.
Et je crois que je confonds avec
les
JO.
Je vais dire la France.
Je France sais que c'est, et... je crois, je sais que c'est sûr, c'est pas la France, mais je vais dire soit Danemark, soit Norvège.
Il y a un pays rouge. Ouais,
soit Suède aussi. Ah non, Suède, je crois, ils sont pas bons chez les gars, c'est les filles où ils sont bons, la Suède. J'hésite entre Norvège ou. Est-ce que je vais être Norvège pour dire différent, mais je crois que c'est Danemark.
Norvège. Tu dis Norvège?
Norvège, mais je pense que c'est le Danemark.
C'est le Danemark.
Ah, j'ai été sûr. C'est pas grave.
Ah, c'est le Danemark.
Bien joué. C'est. Là, on est à 5, ça.
6.
6, pardon, excuse-moi. 6, 2, 2,
3.
6, 3.
Ouais, il a... Non, je
crois.
Tu triches pas, toi? Non, il a 3, je crois.
Roland Garros.
Ouais, non,
il a
3,
oui. 6, 3, 3.
Et
2.
Et
2. Là, on sort totalement du sport, mais celle-là, je voulais la faire. Elle est intéressante. Je sais même pas si Justine, tu sais.
Ah ouais.
En quelle année Delta FM a été créé?
Ah bah.
Vous voulez que je fasse des provisions parce que là.
Bah, soit c'est date du lycée, et du coup, bah, c'est
je
la.
Connais même pas la date. Je connais même pas la date du lycée.
Ah, tu l'as pas?
Moi, je sais pas non plus.
Ah, t'abuses.
Je l'ai vu en histoire, mais j'ai oublié. Gros.
Bah, un indice, l'année prochaine, c'est les.
Bah, ouais, du coup, c'est pas un indice, du coup, tu as la réponse.
Ça sera
fais,
les.
Je vous fais des.
Vas-y, vas-y.
Des provisions. 1979, 1996 ou 1987.
Je laisse répondre parce que moi je l'ai,
ouais,
je l'ai
aussi,
à 100%.
Je pense savoir.
En cela.
Attends, j'ai réfléchi.
Moi j'aurais dit 87.
Clément, on l'a dit en même temps.
Moi j'aurais dit
4. 3, 2, 1.
Moi j'aurais dit 87, moi.
87, ok.
Ouais, je pense.
79.
En 79. Ok, vous êtes prêts? Vous le dites en même temps.
3, 1,
87.
C'est-à-dire que c'est bon?
C'est 87,
voilà.
Effectivement.
Allez hop.
La radio a été créée en 87.
Ouais. Et oui.
Et donc.
40 ans l'année prochaine.
Ouais. Ok, ok. J'avoue, je suis... En plus, je suis bête parce que tu m'as dit l'année prochaine c'est machin. Du coup, je me suis dit ça va être un chiffre rond. Du coup, ça peut pas être. Ok, ok, merci pour la passe des.
Et donc, bah, je crois que Clément, tu gagnes.
J'ai encore gagné, magnifique. Attends, qui avait gagné des.
C'est la troisième.
Attends, non. Premier gagnant c'était Ancelin, après c'était moi, après c'était Clément et après c'était moi. Encore.
Ouais.
Voilà, il y a juste. Oh, Mamadou. Hop là, t'as
bah,
pas gagné.
Il reste qu'un seul quiz ou deux, je sais pas.
Ouais.
Et bah peut-être qu'on peut remonter.
Ouais, bah, enfin, ouais, bah on verra ça. Alors, si tu veux, j'en ferai un pour la prochaine fois. Voilà, je le dis. Ah, bah, okay. Super, personne n'a rien à ajouter. C'est bon. C'est
okay.
Et bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre émission. Salut.
Salut.
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'avoue
des intentions, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme
ça. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.